il est 13h.
Raise a hand, and I don't know just what you do, but I know you got away with the you. Yeah, she got a way to send me and a way to bring me back. One little shake now is all it takes to stop me in my tracks, and I don't know just what you do.
Chicago qui démarre comme chaque samedi de 13h à 15h. Sweet Home Chicago numéro 721 aujourd'hui avec un disque du mois et un disque de la semaine qui sont le même. Il s'agit du tout nouvel album de James Hunter of the Hard Way. Et voilà, donc c'est comme ça que ça démarre. Ça a été même disque de la semaine chez Canal+, autour de 18h10 tous les jours de lundi au vendredi. Et puis avec un récap de l'interview et des clips hier soir à 22h. Voilà, donc James Hunter chez Go Records, un anglais qui récidive deux ans après un superbe album qui n'était pas son premier non plus. Voilà, James Hunter, je me souviens d'une interview il y a deux ans, un garçon très ouvert, très sympathique et puis un gros galérien surtout, un garçon qui est né en 1962 et qui, comme le titre de l'album indique, The Hard Way, n'a pas forcément choisi le chemin le plus facile pour arriver à ses fins. En tout cas, ben, on espère que ce petit buzz sur la télévision française va l'aider à se faire connaître de ce côté-ci de la Manche. Et puis, nous, ici, on va en écouter, on va écouter au moins 4 ou 5 extraits aujourd'hui, puisque c'est disque de la semaine, au moins 3. Et disque du mois, c'est avec ça qu'on démarre. Voilà le sommaire de l'émission, juste après un premier titre, un second titre maintenant, Buddy Whittington. La semaine dernière, je recevais Jacques Picard qui nous parlait de la soirée de mercredi prochain, le 8 octobre au Zénith de Caen, avec Spoonful en première partie de John Mayall, la légende qui est en tournée actuellement en France pour 21 dates en 3 semaines, figurez-vous. On avait dit également que son guitariste Buddy Whittington, superbe guitariste que j'avais vu il y a déjà presque 10 ans, il est toujours avec lui. Eh bien, il vient de sortir un album solo qui s'appelle tout simplement Buddy Whittington. Il ne faut pas oublier de payer le groupe hein, quand on va écouter les morceaux. Pay the band, Buddy Whittington. Il y a fort à parier que ce soit lui qui démarre en solo avant l'arrivée de John Mayall mercredi soir au Zénith. Killing, I've Admirablement bien ficelé, celui de Buddy Whittington, qui n'a pas de titre, hein, Buddy Whittington, donc Pay the Band. Je ne sais pas si vous avez prêté attention aux paroles, enfin ça raconte un petit peu la galère des musiciens qui doivent payer leur location de bagnole, qui sont en dette avec tout le monde dans la ville, et puis c'est les patrons de bar qui casquent pas, parce que quand il y a des concerts et puis qu'il n'y a personne, les cachets ne s'envolent pas forcément. Et puis, comme disait l'autre, The Eagle Flies on Friday, c'est pas toujours valable pour tout le monde. Donc la logique, c'est de payer le groupe, hein, quand tu vas écouter un concert, c'est que le groupe soit payé. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Voilà, Buddy Whittington, guitariste attitré également de John Mayall. Il n'y a aucun musicien de la bande de John Mayall, donc des Blues Breakers 2008, sur cet album. Hein. Ce sont des musiciens à lui, Buddy Whittington. Un album qu'on peut trouver chez Music et Blues Avenue. Voilà, on continue avec le disque de la semaine. Donc on venait juste de le quitter, c'est le disque du mois, James Hunter. On va le retrouver pour un second titre. Et puis juste après, donc pour le sommaire de l'émission, vous avez trois interviews qui vous attendent aujourd'hui jusqu'à 15h. À commencer par notre cinquième volet des interviews autour de la presse musicale avec le magazine Crossroads. J'aurais bien voulu également interviewer Christophe Goffet, qui a l'air très très pris, rédacteur en chef de Crossroads. Eh bien, ce sera un pis-aller, mais un pis-aller de luxe, avec Francis Ratto, qui est également président du collectif des Radio Blues et qui est chroniqueur depuis plusieurs années maintenant dans X-Roads, qui s'appelait Crossroads. Et puis, je vais lui demander tout à l'heure poser quelques questions à propos du magazine et puis à propos de son rôle dans l'équipe de Crossroads. Voilà, un mensuel que vous connaissez tous, qu'on peut trouver dans pas mal de kiosques un petit peu partout en France. Deux autres interviews, il s'agit des musiciens qui nous feront l'honneur de jouer au Souboc vendredi prochain, vendredi 10 octobre. Ce sera Eric Vachera tout d'abord pour le groupe Bourbon Street et Thierry Anctil pour le groupe Cold Sweat. Ce sera en deuxième heure de ce Sweet Home Chicago numéro 421, oui déjà. James Hunter, on va revenir dans des choses un petit peu plus cool. On va revenir dans les années 60, enregistré en 2008. Moi, je trouve ça superbe de pouvoir continuer à créer et puis à composer hein, dans ce style, un petit peu soul, qu'il qualifie de soul, mais il y a encore autre chose. Il y a le rhythm and blues, il y a des petites choses un petit peu psychédéliques dans les claviers. Enfin bon, il faut aller chercher loin. Moi, l'album, je l'ai écouté en long, en large, mais pas en travers. Je vous ai proposé cette fois-ci Karina, James Hunter.
I'll steal your heart away in time. It's only fair 'cause you have mine. Don't make me wait.
Karina, ça fait partie de l'album The Hard Way de Monsieur James Hunter. On n'a pas fini de l'entendre celui-là, y compris au cours de cette émission. Disque de la semaine pour Sweet Home Chicago. Je reçois mon premier invité, Francis Ratto. Comment ça va, Francis?
Ah, fort bien, surtout après l'écoute de James Hunter, un disque aussi que j'adore.
Un disque que t'as dans l'oreille aussi, alors.
Ouais.
Vraiment une très très belle nouveauté. Francis, tu es invité de Sweet Home Chicago aujourd'hui, non pas pour parler du collectif des Radio Blues, mais pour parler de Crossroads, mais qui s'appelle maintenant X-Roads. Je ne sais pas d'ailleurs comment on prononce maintenant.
Ben, on continue à prononcer Crossroads, puisque le X, en fait, c'est la croix, en quelque sorte. Hein. Ne va pas croire que nous ayons versé dans le porno.
Non, pourtant, on parle de hard parfois dans l'album, mais c'est
vrai,
plutôt de la musique, quoi. Voilà, alors Crossroads, c'est pas un magazine de blues, c'est pas un magazine de pop, c'est pas un magazine de rock, c'est pas un magazine pour les jeunes, c'est pas un magazine pour les vieux. Qu'est-ce que c'est finalement la cible de Crossroads?
C'est rien du tout finalement. c'est un magazine de passionnés. Je crois que c'est avant tout un magazine de passionnés, fait par des passionnés et certainement pour des passionnés aussi.
Alors un magazine qui se démarque quand même de la production trimestrielle purement blues ou presque purement blues, puisque il y a une distribution en kiosque un petit peu partout en France. Sur les 30 000 dépôts qui existent en France, je crois que ça doit être à peu près comme Jukebox Magazine, on en a au moins 5 000.
Le nombre de dépôts,
oui.
Je connais pas le nombre de dépôts exactement.
D'accord. Bon, on arrive à peu près à le trouver partout. Bon, je sais
à peu près.
Par chez nous, c'est pas trop difficile. Ça fait combien de temps que tu collabores au magazine, Francis?
Ah, ça doit faire à peu près pas si longtemps que ça, environ 4-5 ans.
4-5 ans, voilà. Ouais. Donc, comment ça s'est passé rencontre?
Alors, personnellement, parce qu'il y a deux histoires là. Il y a l'histoire de Crossroads, et l'histoire de Crossroads, elle est évidemment à lier immédiatement avec son créateur, Christophe Goffet.
Voilà, que j'évoquais tout à l'heure.
Ouais. Un sacré personnage.
Mm-hmm.
Quant à ma modeste part, en effet, depuis 3-4 ans, ça s'est fait parce que au départ, je collaborais avec un autre magazine de rock, It's Only Rock.
Mm-hmm.
Qui avait été monté par Thierry Cattier, qui avait un label Outside Records, qui n'a pas duré. Et puis, pendant cette période, j'ai fait connaissance aussi de Christophe Goffet, et qui m'a dit, maintenant, si tu veux écrire avec nous, sois la bienvenue.
Christophe Goffet, qui est un petit jeune dans le milieu, mais qui n'en est pas à son coup d'essai. Je crois qu'il a réalisé plusieurs titres.
Ah oui, dès son adolescence, je crois, il a déjà créé des fanzines.
Des fanzines de lycée.
On le connaît mieux lorsqu'il a pris la rédaction de Best, ça doit être dans la fin des années 90.
Ouais.
Et puis après, ce magazine que tu as peut-être connu, Music Up,
qui n'a pas
duré très longtemps, qui était assez original d'ailleurs, avec un CD-ROM que Goffet mettait dans chaque revue.
Mmh.
Puis après, il a fondé la société Bandit Company, avec le magazine Compact, qui était aussi un magazine gratuit, que tu as aussi peut-être certainement connu, qui était très rock. Hein.
Et puis,
écoute, il m'a dit lui-même qu'un matin, il a mis un disque de Stevie Ray Vaughan.
Ouais.
Et puis, il s'est dit, mais, vain Dieu, il n'y a personne qui sort un magazine mensuel et qui parle de blues comme Stevie Ray Vaughan, comme Albert King ou d'autres. Alors, il s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire un magazine pour ces gens-là? Il est aussi très branché Americana et folk.
Mmh.
Et ça a été le projet de faire justement ce magazine Crossroads, qui rapidement a dépassé Compact à un point tel que Compact est venu en quelque sorte s'intégrer dans Crossroads.
Ouais. Et puis il y avait également un autre projet qui n'est plus un projet d'ailleurs, qui est devenu un magazine à part entière, qui a ensuite été intégré à Crossroads, puis qui est à nouveau détaché, c'est Brésil.
Ah oui, ça c'est compliqué. À vrai dire, l'autre passion de Christophe Goffet, c'est le cinéma.
Oui.
Il m'avait dit même un jour que s'il n'avait qu'à faire qu'un seul magazine, il ferait certainement un magazine de cinéma. Alors, Brésil, Crossroads.
Brésil qui tient son nom d'ailleurs d'un titre de film de Terry Gilliam. Hein.
Voilà, tout à fait. Ouais. Mm. Et il a fait d'ailleurs, Goffet a réalisé lui-même un petit film, hein, si j'ai bonne mémoire, ça s'appelait Nos amis les Yance ou les Gens, avec Robin Williams, Terry Jones, Bertrand Blier et Terry Gilliam, quand même du beau monde. Hein. Brésil, c'est sa passion personnelle. Bon, malheureusement, Brésil tout seul ne survivait pas. Il a eu l'idée de réunir les deux. Moi, je trouvais que finalement, c'était peut-être pas une mauvaise idée. On a bien les Arocs qui passent au cinéma.
Ouais, c'est vrai qu'on a eu pendant un temps le magazine Crossroads d'un côté, et puis il fallait retourner le magazine à l'envers pour trouver Brésil en entier. Ensuite, il y a une fusion complète des pages, et ça a déplu à pas mal de lecteurs.
Oui, ça a déplu à certains, mais ça a plu aussi à d'autres.
Ouais.
Oui, c'est difficile à suivre, hein. Le père Goffet, faut le suivre. Hein.
C'est un garçon qui a une idée à la seconde. Je sais pas comment on travaille avec un garçon comme Christophe.
Pardon ?
Comment tu fais, toi, par exemple, ou les autres, hein, si tu en entends parler, comment on fait pour travailler avec quelqu'un qui est monsieur 10,
alors, moi,
10 millions de votes là.
Je suis dans un milieu un peu particulier parce que je ne suis pas sur la région parisienne.
Ouais.
La plupart des collaborateurs sont dans la région parisienne.
Ils sont tous dans le stress là-bas.
J'ai l'avantage de la distance. Bon, moi, lorsqu'on se voit, on s'apprécie beaucoup, on se respecte beaucoup et personnellement, je l'admire aussi en même temps.
Mmh.
Et j'aime bien aussi ces petits grains de folie qu'il a et qui permet aussi à certaines personnes de créer ce que Goffet peut créer.
Alors, ton rôle dans le magazine Crossroads, c'est d'abord la chronique de disques, mais également les interviews. On va parler plus avant des interviews tout à l'heure, mais d'abord, je voudrais qu'on écoute un extrait de ta sélection. Francis, je t'avais demandé de choisir trois morceaux, comme
ouais,
ça.
C'est toujours difficile. Hein.
Bah, bien sûr, donc je pense que tu as dû piocher parmi les nouveautés hein, qui arrivent.
Il y a deux nouveautés et une qui date de 2007.
Ah oui, c'est super vieux 2007, Francis.
Oui, on vieillit vite.
Alors, Leadfoot, là, c'est ce qu'on a calé pour démarrer.
Oui.
Leadfoot, c'est pas Leadfoot River, rien à voir.
Non, rien à voir avec Leadfoot River, c'est un type assez curieux, si tu me donnes 30 secondes.
Bien sûr.
Il se qualifie lui-même comme une sorte de sale bête de sa propre invention. Quand tu vois sa photo, t'as l'impression de voir un film d'horreur.
Ouais.
Il est hyper maquillé, il est tatoué partout, il a des bijoux. C'est un type très étonnant et son vrai nom c'est Tim Scott. Et alors tu vas être un peu surpris car c'est le producteur Chris Blackwell, Island Records,
ouais.
qui l'a vu jouer un jour en duo avec Brian Setzer.
C'était le producteur de Bob Marley, Chris Blackwell, non ?
Oui, entre autres.
Ouais. Hein.
Et il a craqué sur ce type, donc Tim Scott, et puis il l'a poussé un peu à démarrer.
Tiens.
Tim Scott a pris le surnom de Leadfoot pour créer une musique qui était un peu quand même un peu Americana, qui était un peu à la lisière du blues, hein, Americana, folk rock, un peu borderline, assez roots malgré tout. C'est un songwriter, il écrit tout ce qu'il chante et... Ben j'ai craqué pour ce type, voilà, c'est son dernier album qui s'appelle, et le titre veut tout dire quand on a parlé du personnage, The Devil Songbook.
The Devil Songbook, justement, sur Radio 666, Francis, ça tombe très bien, c'est enregistré chez MC Records, le label de Marc Carpentieri, comme son nom l'indique, hein, MC Records, et puis le titre, je te laisse le prononcer, tiens.
Alors, attends, j'ai pas le titre sous les yeux, tu me prends au piège, là.
Save my
ass, évidemment.
Tu te rends compte ? On se retrouve tout à l'heure, Francis.
Okay.
Someone say my ass.
Voilà, donc Save My Ass, le premier titre de la sélection de Francis Rateau pour Crossroads dans le cadre de nos interviews, cinquième volet hein, des interviews autour de la presse musicale. Je sais pas, on pourrait peut-être se cotiser, Francis, pour lui envoyer un tube de préparation H. Attends, garçon, là, let's vote, non, qu'est-ce que t'en penses?
J'ai juste quand même une petite information. Oui. Ce type-là est aussi signé sur un label norvégien car il habite souvent en Norvège, bien qu'il soit californien d'origine. Hein.
Oui, bah évidemment, il y a des lignes régulières entre Oslo et San Diego, tout le monde sait ça.
Et puis le diable est partout.
Exactement. Le Crossroads, justement, le X de Crossroads, et puis The Devil's Songbook, et puis voilà, on tourne autour du même thème depuis le mythe Robert Johnson. On va revenir au magazine Crossroads, donc tu collabores à Crossroads depuis 4-5 ans maintenant avec Christophe Goffet. Il y a d'autres chroniqueurs qui sont là depuis les débuts, certains sont partis, d'autres sont arrivés. C'est un petit peu ouvert comme dans un moulin finalement, l'équipe de rédaction, non?
Oui, un peu. Je pense qu'il y a eu une équipe au départ qui participait déjà à Compact, hein, oui, voire à Music Up, donc la revue dont on a parlé tout à l'heure. Et puis il y a des nouveaux au fil des rencontres, des articles, des passions aussi qui se manifestent. L'ouverture du magazine au style rock, au style americana.
Quand tu dis au style, c'est en deux mots, on est bien d'accord. Hein.
Pardon?
Quand tu dis hostile, c'est bien en
oui,
deux mots.
Ah oui, oui, oui. Rarement hostile, mais bon, toujours dans le style.
J'ai pas pu m'empêcher, pardon.
Alors, il y a quand même des gens qui sont là depuis pas mal de temps. Frenchy, notamment. Ouais. Jerry Bellamy, ouais. Thierry Busson, Alexandre Cecilia, Eric Coubard, que tu connais peut-être aussi par ailleurs, qui est un passionné de cinéma et qui tient le label Bad Reputation.
Ah bah oui, il m'envoie régulièrement des choses intéressantes. Voilà.
Ouais. Et il y a Tony Grieco, qui est le maquettiste et qui fait pas mal d'interviews de blues aussi, qui est salarié de Crossroads, et puis qui est le maquettiste remplaçant Dom Sarai Dessin, que tu connais aussi.
Oui, qui s'occupe également de faire le design fort réussi de quelques pochettes d'albums,
dont
quelques-uns des derniers en date. Il y avait Shaggy Dogs, il y avait The Big Days, etc.
Enfin, voilà.
Quelqu'un qui travaille bien et qui a d'ailleurs une femme qui s'appelle Nadia, qui elle aussi baigne largement dans le milieu de la musique.
Attaché de presse. Hein.
Voilà.
Et puis il y a eu des collaborations quand même assez, assez conséquentes qui reviennent de temps à autre, telles sous son pseudonyme de Michel Vigneault, qui est alias Michel Pamplune du label Fargo.
Oui, alors ça, t'es sûr qu'il fallait le dire à l'antenne. Finalement, on va revenir au direct dans quelques... Parce que c'est vrai que c'est un truc dont on parlait la semaine dernière avec Jean-William Toury par téléphone. À l'époque où il écrivait, il était rock critique, il était aussi parolier de bijoux, et puis finalement il écrivait sous un pseudo. Il nous a expliqué pourquoi, parce que 25 ans, 30 ans après, il y a prescription. C'est tout simplement qu'il voulait pas qu'on le qualifie de favoriser des choses pour lesquelles il avait des intérêts, etc. Ah, donc peut-être bien que la personne dont tu viens de nous parler avait le même souci, j'en sais rien.
Bon, ai-je dit quelque chose?
Comment?
Je n'ai rien dit.
Ah non, j'ai rien entendu, il n'y a pas de problème. Alors, pour en venir à toi, Francis, par rapport à ce que tu fais pour Crossroads, il y a deux, on va dire, deux grands pans de ton travail mensuel. Ce sont les chroniques d'albums et les interviews. Alors, par rapport aux chroniques d'albums, tout d'abord, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ce sont les albums que tu reçois par rapport à ton émission de radio? Est-ce que Christophe Goffet t'en envoie? Comment
Alors, d'abord, moi, j'ai quand même une participation irrégulière parce que je ne suis pas toujours aussi disponible que d'autres.
Non, mais tu écris tous les mois ou presque, non?
Ah, pas, bah, ce mois-ci, non, par exemple.
Moi, j'ai pas vu.
Trop pris par mon boulot, mais bon, c'est irrégulier. Il n'y a aucune censure dans Crossroads, et c'est ça que j'apprécie. Il y a quelques calibrages techniques inévitables à toute parution.
Oui.
Mais
ça veut dire qu'il y a des chroniques qui sautent au mois suivant, en clair. C'est,
oui, hein, oui, par exemple.
Bah, ça, c'est partout.
Ou même des interviews. Des articles aussi, hein.
Oui.
Ce qui est normal en fonction de l'actu déjà et puis de la longueur de l'article. Mais il y a quand même la possibilité de chroniquer tous les disques que nous le souhaitons. Alors soit pour les démonter, soit pour les apprécier.
Alors pour les démonter,
je les apprécie tous.
C'est ce que j'allais dire. Quand vraiment tu n'apprécies pas un album de façon tout à fait objective, soit pas forcément, c'est pas forcément personnel, hein, parce qu'on peut ne pas apprécier un album et puis apprécier tout à fait le personnage qu'il a qui l'a créé. Comment tu t'y prends? Est-ce que tu dis, moi non, finalement, je fais pas la chronique, ou alors est-ce que tu mets un peu dans ton vin, ou est-ce que tu y vas carrément?
Quand je n'ai pas aimé un album, je ne le chronique pas. D'accord. J'estime qu'il y a suffisamment d'albums reçus dans ma besace pour pouvoir choisir ceux que j'apprécie. Et puis je me sens pas le devoir de démonter un artiste. Pour un disque peut-être dont la critique pourrait être un peu moins forte, je peux atténuer la chronique. Mais en général je parle du disque que j'ai aimé. Bon, j'essaye aussi, s'agissant du magazine Crossroads, qui s'ouvre à un public plus large que celui du blues.
Oui.
Bon, disons que j'essaye de trouver les mots qui conviennent pour parler à ce public plus large.
Oui, j'imagine que si tu devais chroniquer les mêmes albums pour Soulbag ou ABS Magazine, tu emploierais peut-être un autre vocabulaire,
je sais pas. Oui, je pense que je serais plus technique aussi.
Voilà. On va revenir tout à l'heure aux interviews, après ton deuxième choix. Je voulais te poser une question par rapport aux couvertures de Crossroads, qui sont généralement des portraits, on va dire, hein, oui. pour faire simple. Parfois, c'est simplement une photo comme ça, pris sur le vif, très très flou, hein, d'un rocker qui manipule sa guitare. Enfin bon, il y a forcément un choix de la couverture. Elle se fait en fonction de l'actualité, j'imagine, l'actualité discographique ou scénique.
Exactement.
Et alors, justement, qui a le choix final? Est-ce que c'est le rédacteur en chef? Est-ce que vous êtes consulté?
Le rédacteur en chef, c'est-à-dire Christophe Goffet, a toujours la décision finale, mais oui. Il nous soumet par mail les différentes couverture possible, y compris dans les couleurs aussi de texte. Et on dit un peu ce qu'on en pense, et bon, généralement, il y a toujours un consensus pour trouver le meilleur, et c'est toujours le rédacteur en chef de toute façon qui doit conclure.
Il y a une critique qui m'est revenue aux oreilles il n'y a pas très longtemps, il y a un ami qui m'a dit, mais écoute, moi j'achète plus Crossroads parce que la plupart des articles sont illisibles, c'est écrit en bleu sur noir ou alors en vert sur marron, c'est écrit tout petit, et puis comme je vieillis, mes lunettes ne suffisent pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu un correctif récemment quand même?
Non, mais je pense qu'il lisait Crossroads du temps où Dom faisait la maquette, et en effet c'était extrêmement coloré.
Ouais.
C'est une affaire de goût. J'ai le dernier Crossroads sous les yeux, il n'y a pas de fond de couleur, c'est assez lisible. Si c'est écrit petit, c'est parce qu'il y a énormément de textes.
Eh oui.
Si tu savais le nombre de textes qui arrivent à Crossroads.
Ah mais je me doute, rien qu'à avoir le contenu. Il y a combien de pages? C'est 180, 160, je ne sais plus.
Oui, 150 à peu près.
Ouais. Bon, bah, voilà, c'est quand même déjà très
un
dense.
Un peu moins.
Ah bah écoute, voilà, j'avais ce nombre-là en tête.
Alors maintenant, il y a du Brésil, donc ça a diminué un petit peu.
Oui, c'est vrai. Voilà, on va continuer après. Je vais te poser des questions sur les interviews que tu as faites. Mais en attendant, j'aimerais que tu nous parles des Harp Sliders, qui est ton deuxième choix. C'est un groupe français, hein?
Oui, c'est même un duo, même s'il s'acoquine avec d'autres amis. Et puis c'est surtout de véritables amis, hein, vraiment de bons compagnons. Tu les connais.
Donc ce sont les ch'tis du blues. Hein.
C'est des gens adorables du Nord. Manu Slide, Papy Washboard. Ils sont de Cassel, ça doit pas être très loin de Lille, tout ça.
Et d'ailleurs, il y a un festival de blues à Cassel.
Ils l'organisent, avec leur association Blues Box. Un festival, hein, chaque année, oui. Et Harp Sliders, ils ont toujours penché vers le roots, hein, vers les années 40 même. Hein. Et leur tout dernier album, qui s'appelle, d'un nom assez curieux, Don't Buy Brand New Guitars, donc n'achetez pas les guitares neuves, signifie en même temps, si j'ai bien compris, que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe.
Les meilleures confitures, exactement.
Hein, et c'est donc avec des vieilles guitares qu'on arrive à retranscrire l'âme de ceux qui ont pu jouer dessus. Alors ça, c'est pour la forme, mais alors sur le fond, j'ai trouvé qu'ils avaient fait quand même un sacré boulot au niveau de l'enregistrement, des arrangements, des idées. Ce qui manque parfois aussi, il faut bien l'avouer, sur certains disques qu'on écoute, tout en respectant cette tradition du blues, du rag, des années 40, 30 même, parfois. Et j'étais vraiment ébloui par ce tout dernier album qui est sorti cet été. Hein.
Vous venez d'assister à une chronique en direct de Francis Rateau pour nous parler de dernier album des Harp Sliders. C'est superbement résumé. Je crois que le mieux, maintenant que tu as donné l'eau à la bouche aux auditeurs, c'est qu'on écoute ce titre qui s'appelle « Je ne supporte pas te voir partir ».
Exactement. Et c'est un titre de Jimmy Reed.
Can't stand to see you go.
Can't feel down.
Voilà, les Harp Sliders dans Sweet Home Chicago, c'est une nouveauté grâce à l'ami Francis Ratto qui m'a envoyé ce titre. Je pense que les Harp Sliders pourraient également envoyer l'album entier de manière à ce qu'on puisse le diffuser un petit peu plus largement, au moins dans Sweet Home Chicago. Can't Stand to See You Go, tu l'as dit, une reprise de Jimmy Reed.
Oui.
Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Harp Sliders, voilà. Si, je voulais juste signaler un petit truc, à mon sens. Bah, d'abord, faire une analogie avec le groupe Stinky Lou and the Good Mad. Ils ont l'air davantage encore s'affirmer dans ce style-là, dans le style roots, mais électrique, celui qui est de l'immédiate après-guerre, on va dire, après 45, si je ne m'abuse, hein, vers 45-50, hein, là où le Chicago Blues commençait à s'électrifier, à se durcir, hein, au contact du ghetto urbain. La même démarche un petit peu que Stinky Lou and the Good Mad, non?
Oui, on peut dire un peu cette orientation-là. Peut-être que Stinky Lou le fait de manière un petit peu plus dirty.
Oui.
Outsiders peut-être plus fidèle. Et puis il manie aussi beaucoup plus d'instruments, puisque bon, il y a les guitares, il y a le washboard, mais il y a aussi du kazoo, mandoline, harmonica. Il y a même, je crois, aussi des cuillères, des maracas, des coquillages aussi, tu vois. Il y a contrebasse, il y a pas mal de choses, contrebassines, etc., etc.
Francis, par rapport à Crossroads, magazine Crossroads, qui tu l'as signalé tout à l'heure, davantage rock, folk que blues, même s'il y a du blues aussi dedans, hein, c'est pour ça que j'ai rebaptisé ma série d'interviews autour de la presse musicale, et non pas autour de la presse blues. D'ailleurs, je recevais la semaine dernière Jacques Leblanc, qui est rédacteur en chef de Jukebox Magazine, ouais, que c'est encore un autre créneau, hein, tu vois. Donc, c'est peut-être le fait que ça soit, enfin, que le blues soit intégré, justement, dans un magazine rock au sens très très large, qui va permettre à davantage de gens qui écoutent surtout du rock de non pas forcément se mettre au blues, mais au moins savoir que ça existe toujours en 2008.
Exactement, et je dois avouer que c'est une de mes fiertés de pouvoir participer fort modestement, ouais, à des écrits sur le blues dans un magazine qui s'adresse à un public beaucoup plus large, mais qui est sensible naturellement au blues, parce que lorsqu'on aime le rock pur, ou lorsqu'on aime le folk rock, on aime aussi et forcément un peu le blues comme on aime la country.
Mmh. Alors dans Crossroads, on trouve pas que des chroniques de disques, on trouve également des interviews, mais aussi des articles de fond. C'est vrai que dans le tout dernier Crossroads, il y a des choses intéressantes. On revient parfois sur le passé. Moi, j'aime bien la chronique, par exemple, Back in Black, où on revient sur des albums des années 70, 80, des chroniques un petit peu parallèles. Et puis des interviews que tu as faites, Francis, depuis 4 ou 5 ans que tu collabores au magazine Crossroads. De laquelle serais-tu le plus fier, finalement?
Ah, aucune.
pas forcément dans le thème de fierté d'avoir rencontré la personne, mais au moins dans le fait d'avoir pu retranscrire les propos de l'artiste, justement.
Marco, je vais te dire que le moment le plus intense lors d'une interview, c'est le moment où tu échanges avec l'artiste.
Oui.
Ce moment-là que j'aime bien. Bon, j'avoue qu'après, j'aime assez aussi la retranscrire, surtout que dans Crossroads, on a quand même quelques contraintes, c'est-à-dire qu'on essaye quand même de compresser. Et moi, j'y suis assez favorable, parce que j'estime que souvent, on en dit trop, et que parfois, on répète aussi un peu les mêmes choses.
C'est parfois un peu délayé dans certains interviews. C'est vrai qu'il y a des interviews qui sont in extenso. 20 minutes de conversation, ça prend facilement 3 pages.
Hein. Oui, bon, personnellement, j'aime bien compresser un petit peu ces interviews. Sinon, je suis incapable de te dire laquelle je préfère, celle pour laquelle j'ai le plus vibré.
Alors la dernière peut-être.
Alors la dernière, elle a quelque chose d'assez particulier, parce que c'est un dossier sur mon ami Jacques Bon, My Friend Jacques, et son groupe Ganafoul, donc qui évidemment sur la région lyonnaise est très très important dans la mémoire de tout rocker et de tout fan de blues.
Mais
aussi.
Pas que dans la région lyonnaise, je peux te dire que même en Normandie, on a entendu parler de Ganafoul vers 80, 78, 80.
Ouais. À côté même très hard rock, hein, à un moment donné, parce que j'ai bien réécouté tous les disques pour faire ce dossier, et puis j'avais envie aussi de faire plaisir à Jacques Bon, qui est un artiste accompli, d'une humilité comme j'en connais peu et surtout d'un talent immense. Alors je suis assez fier en effet d'avoir pu réaliser ce dossier, et en plus je l'ai réalisé avec la complicité de deux personnes que tu connais, Cédric Vernet, qui fait partie du collectif des Radio Blues.
Salut Cédric, si tu nous écoutes. Ouais, Blues et Café, hein, tous les débuts de mois, c'est ça?
Oui, bah, mardi soir on est avec un groupe en live, Blues Tempo, un groupe de Lyon. Et puis, Gérard Biquel, alias Rocky Gonzalez, voilà. Qui fait aussi une émission.
Ah, c'est vrai qu'en Rhône-Alpes, vous avez des personnages. Il n'y a pas que ces deux-là dont tu parles. Il y a Michel Faton à Gap. Sur la région lyonnaise, il y en a quelques autres comme ça qui font vraiment bouger la musique bleue. Jack Bond, donc, qui a complètement changé son fusil d'épaule maintenant, puisque son dernier album est entièrement acoustique et il se repenche sur les efforts des pionniers tels Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, etc. Un album que j'avais pu chroniquer il y a un an ou deux quand il est sorti. Un album que j'avais, je ne sais plus, mais je crois que je le qualifierais encore de sublime, parce qu'il y a vraiment tout. C'est un garçon qui a fait le tour, un petit peu de tout ce que le blues a pu fournir dans les années 70, 80, 90, 2000, et puis il revient aux sources. Alors, ça fait peut-être bateau de le dire, mais quand un rocker joue du blues acoustique, en général, il en sort toujours quelque chose d'intéressant.
Exactement. Et en plus, il fait aussi une manifestation pour expliquer le blues aux enfants dans les écoles, dans les maisons de jeunes ou dans les centres culturels.
Eh ben c'est dommage, on aurait pu programmer Jack Bond. Là, j'ai pas apporté d'album, ça sera pour une très très prochaine fois. On va en terminer presque avec cette interview autour du magazine Crossroads, revue mensuelle en kiosque, s'il vous plaît, avec l'actu et puis les projets, parce que on le disait, Christophe Goffet, rédacteur en chef, fourmille de projets. Il en parle dans son dernier édito.
Oui, il y a quelques projets comme toujours, et entre autres, il va sortir des best-of de Crossroads, des dossiers, des hors-séries aussi thématiques, bimestrielles. D'ailleurs, le premier va sortir le 6 octobre.
Là, c'est très bientôt,
ça. Le premier thématique qui va sortir le 6 octobre est consacré au folk. Alors moi, je pense que je m'attellerai dans un second thématique autour du blues, peut-être.
Oui.
Il y a aussi des concerts qui vont redémarrer à Paris chaque semaine.
Ah bah, il y avait eu quelque chose à l'Olympia pour un anniversaire de Crossroads il y a quelques années avec une pléthore d'artistes.
Et bien là, pour l'anniversaire de Crossroads début novembre, le 16 octobre, dans Paris 8e, je ne sais pas encore où, je ne sais pas exactement quoi, mais je crois que c'est justement le redémarrage de ces concerts nommés Crossroads Rendez-vous.
D'accord.
Et qui devraient avoir lieu ensuite chaque semaine.
Chaque semaine. Et c'est Christophe Goffet qui organise tout ça, non? J'espère
qu'il
y a avec
d'autres. Avec d'autres.
Oui, voilà. Et bien donc voilà encore des projets qui fourmillent autour de la musique dans son sens le plus large, rock, folk, blues, ça tourne un petit peu autour de ce triptyque. Les interviews continuent, elles se passent comment généralement? Est-ce que toi tu privilégies la rencontre véritable, ou est-ce qu'il t'arrive de faire des interviews par email comme le font beaucoup de gens?
Au sein de l'équipe de Crossroads, la majeure partie font leurs interviews de vive voix avec l'artiste.
Oui.
Certains se déplacent même, y compris à l'étranger,
puisqu'il y a des
qui sont déplacés en Californie.
Des frais de déplacement pour la Californie, c'est
voilà, régulièrement. Moi, je suis un petit peu exilé dans le sud-est, en Rhône-Alpes, tu l'as dit tout à l'heure. Un peu plus
j'ai pas dit que tu étais exilé, Francis, du
Pardon
tout. Je n'ai pas dit que tu étais exilé, j'ai dit que tu étais hors du stress parisien.
Voilà. Mais en tout cas, j'ai plus de mal à rencontrer les artistes qui transitent en avion par Paris, comme d'autres journalistes peuvent le faire.
C'est
donc
vrai.
Moi, je fais essentiellement mes interviews par mail, mais j'aime bien aussi, j'apprécie.
Alors, on va terminer avec quelques aspects pratiques de Crossroads. C'est un magazine en kiosque, qu'on l'a dit. C'est combien maintenant? C'est 5 euros, 5,50? Je ne sais plus à combien c'est arrivé.
5,50.
Abonnement, c'est toujours 50 euros pour un an, 11 numéros.
Alors là, tu m'en demandes beaucoup.
Bon, on va se fier au site internet, hein, c'est tout simple.
Voilà.
www.banditscompany.com. Et puis, si vous n'avez pas le temps de noter, vous allez sur un site que vous connaissez peut-être mieux, vous, auditeur de Sweet Home Chicago. C'est celui de l'émission, justement, blues.radio666.com. Si vous regardez tout en haut la bandelette jaune, il doit y avoir quelque chose qui ressemble à magazine ou à revue, et vous arrivez sur une page sur laquelle vous retrouvez la majeure partie des titres blues ou s'en rapprochant, hein, ça s'appelle revue. Donc, vous trouvez dans l'ordre alphabétique ABS, ordre alphabétique, parce qu'il faut privilégier personne. Il y en a qui sont sourcilleux, je peux te dire, hein, dans la mise en page. Il y a le blues country rock'n'roll, tous ceux qui figurent sur la page. On ne va pas tous les citer aujourd'hui. Ton interview, Francis, fait partie d'une série d'interviews toutes les semaines. Voilà, on fait des rencontres avec des chroniqueurs, des rédacteurs en chef.
C'est une excellente idée et je te remercie.
Mais écoute, c'est moi, Francis, et puis bonne route. Et puis on va se revoir très bientôt, puisque le 9 décembre, tu remontes sur Mantes-la-Jolie ou pas? Comment tu fais?
Non, je ne pourrai pas.
Alors. Oui, donc on va se retrouver un petit peu plus tard. J'espère avant la fin d'année quand même. Ça serait bien que tu puisses passer au Sous-Bloc, par exemple,
en
petite visite. Hein? Voilà, puisque par chez toi, malheureusement, le James Café a fermé ses portes le mois dernier. Vous êtes un peu orphelin de musique live. J'espère bien, en tout cas, que sur la région lyonnaise, il va y avoir au moins un lieu qui va reprendre le flambeau du James de Gonzague. Alors,
on l'espère de tout cœur pour la région et pour le blues en général. Hein.
Il y a également un festival qui se déroule à Irigny maintenant, c'est un truc tout nouveau.
Oui, il y a un festival qui s'appelle For You Blues qui va démarrer très prochainement. Mmh. Les dates, c'est le 18 et 19 octobre à Irigny, c'est dans l'ouest lyonnais.
Est-ce que tu te souviens des artistes qui sont programmés?
Oui, il y a Neil Black, Fred Chapelier, Vargas Blues Band, Keith B. Brown, Catfish Keith, Dribble Blues, Little Loutour et d'autres encore de la région aussi lyonnaise.
Ça tombe bien parce qu'on va passer Neil Black tout à l'heure. Mais avant, on va terminer avec la dernière sélection que tu as faite. Je te laisse prononcer le nom de l'artiste.
Oui, bah évidemment, et pourtant ça fait presque normand. Hein. Alors il s'appelle Justin Lavache, on va peut-être le prononcer Lévêche peut-être, pour éviter Lavache.
Ouais.
En fait c'est un Anglais, hein. C'est un Anglais qui d'ailleurs devrait habiter très prochainement en France, et c'est un Anglais qui a beaucoup voyagé, qui habitait un peu partout, y compris à Prague, déjà habité du côté de Boulogne, qui a fait beaucoup de jazz, de folk, de rock indépendant. Il a joué dans un groupe de Liverpool au début. Il avait de qui tenir puisque son père est américain et passionné de folk, et sa mère est irlandaise, passionnée de folk irlandais aussi. Et ce type va bientôt arriver en France avec sa guitare et puis ses compositions. C'est son deuxième album qui vient de sortir, qui s'appelle Fits and Starts. Et il parle même français, donc c'est quelqu'un qu'on peut, avec lequel on peut aussi bien bavarder. Et je dois avouer que j'ai bien aimé à la fois son style, entre folk et blues, et sa voix. J'ai trouvé que ça faisait un très très beau mélange.
On va découvrir cet artiste dans le premier passage dans Sweet Home Chicago, Justin Lavache, avec le titre Dirty Money. Francis, je te remercie encore d'avoir participé à ce 721e Sweet Home Chicago.
Et bien longue vie à Sweet Home Chicago. Merci à toi, Marco.
Merci, à très bientôt. Bye. Bon week-end. Bye.
Love you, dirty, dirty money. I won't watch the stinging money now. You're clean, seeing your owners, your dirty books, but you keep your head away 'cause of the dirty little looks. That all your dirty friends are all the dirty little jokes. Well, Gary, if they knew you knew what they all know, that your dirty, dirty love and your dirty money will ever wash the stain clean. About it, tell me which policeman could take the test. Put the blue white bag in this dirty old man's hat. I stand waiting at your door. You'd give me just a little bit more. Your dirty, dirty love and your dirty, dirty money. I don't watch the stain in the body now. Your dirty loving. One thing's been a bothering me. I don't
gonna make your dirty loving clean with your dirty, dirty loving, your dirty harmonica. You're gonna wash the stain clean, but tell me which musician could take the test. But the blue white bag in this dirty old mess. I stand waiting at your door. You'd have given me just a little bit more. Your dirty, dirty loving, your dirty money. I'm gonna wash the stain clean, but hey.
Justin Lavash, anglais, donc de mère irlandaise et de père américain, comme nous l'a appris Francis Rateau tout à l'heure, avec ce titre, ça s'appelle Dirty Money. Voilà, il est déjà 13h54 à l'écoute du 666, donc tout à l'heure on va attaquer la deuxième heure. Je vous rappelle qu'on a rendez-vous avec Eric Vachera de Bourbon Street, puis Thierry Anctil de Cold Sweat, pour parler du concert de vendredi prochain, vendredi 10 octobre au Soubock à Coville. N'oubliez pas que vous avez une semaine chargée, puisque également mercredi soir, vous avez rendez-vous aux de Caen à partir de 20h pour Spoonful plus John Mayall, et oui, avec Buddy Whittington qu'on a écouté en début de programme. Avant de revenir à James Hunter, disque de la semaine pour ce 721e Sweet Home Chicago, je voudrais vous replonger quelques années en arrière avec des gens qu'on apprécie mais qu'on n'écoute plus, malheureusement. Johnny Copeland et Johnny Adams, voilà des gens dont le nom vous parle très certainement. Et avant, revenir peut-être sur un des premiers albums de Neil Black, 1993, déjà chez Dixie Frog. L'album, c'était Neil Black and the Wailers, tout simplement. Je crois bien que c'est son premier album d'ailleurs. I'm gonna cry. Qui va très prochainement se produire lors de la prochaine édition du festival Fouillou Blues à Irigny près de Lyon. On en a donné les dates tout à l'heure. Neil Black qui viendra nous rendre visite à nouveau au Soubock. Ça sera pour le mois de février avec un de ses compagnons de scène qui s'appelle Nico Wayne Toussaint. Voilà, ça sera pour le 27 février. On a largement le temps d'en reparler. Et puis d'ici là, on va revenir il y a quelques années. Un album qui a été compilé d'après des séances de chez Volt et de chez Rick and Run Records. Le titre du recueil donc, qui a été compilé en 1991 déjà chez Rhonda Records s'appelle I Won't Cry et il reprend des morceaux enregistrés entre 1959 et 1963. Alors là, on va avoir une collaboration déjà avec Mac Rebennack alias Dr. John. C'est monsieur Johnny Adams que vous allez sans doute reconnaître puisqu'on connaît surtout ses derniers albums Rounder des années 90 avant sa disparition. Johnny Adams avec Come On.